en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Les 90 ans de l'Académie des sciences d'outre-mer ont été célébrés en 2012. Le 26 juin, très exactement, se tenait au musée Guimet un symposium, une sorte de rencontre sur le thème d'une mondialisation à l'autre, dans lequel on a pu rendre hommage aux grands hommes qui ont fait l'Académie, parmi lesquels Hubert Lyautey, également de l'Académie française, qui a été raconté par le général d'armée Bertrand de Laprelle. Nous vous proposons d'écouter ci-après le portrait que le général fait de lui.
Je vais donc maintenant évoquer brièvement dans les 20 minutes qui viennent la personnalité tout à fait fascinante et extraordinaire du maréchal Lyautey, et je rends grâce aux organisateurs de ce 90e anniversaire de me permettre de le faire. J'ai l'intention de le faire en deux parties et non pas dans les trois parties habituelles de l'école de guerre, faute de temps d'ailleurs parce qu'il y aurait bien des choses à dire. J'évoquerai d'abord très brièvement les raisons pour lesquelles, véritablement, le maréchal Lyautey était une personnalité tout à fait incontournable pour figurer parmi les fondateurs de votre académie. Et puis j'indiquerai surtout, dans une deuxième partie un peu plus musclée, en quoi Hubert Lyautey a été d'une parfaite fidélité à l'idéal et aux objectifs de votre académie. Et pour vous en persuader, je m'appuierai sur les quatre verbes de votre devise en montrant comment le maréchal Lyautey les a vécus, les a promus, et en quoi la façon dont il l'a fait reste d'une étonnante actualité. Les messages qu'il a encore à nous transmettre dans la vision assez prophétique qu'il a eue sont certainement encore tout à fait valables pour nos jeunes générations. Et c'est d'ailleurs pas par hasard qu'une promotion de l'école de guerre vient récemment de prendre comme parrain le maréchal Lyautey. Alors brièvement d'abord, en quoi Lyautey était-il quasiment incontournable pour figurer parmi les éminentes personnalités fondatrices de votre académie ? Vous aurez noté évidemment que 2012 est non seulement le 90e anniversaire de la création de votre académie, mais que c'est également le 100e anniversaire du traité de Fès, dont la signature a été un événement tout à fait fondateur dans la vie et dans l'œuvre du maréchal Lyautey. Puisque le 30 mars 1912, ce traité était signé et moins d'un mois plus tard, Hubert Lyautey est nommé commissaire résident général de France au Maroc et y débarque à Casablanca dès le 13 mai 1912. Quand il arrive au Maroc, 1912, il a déjà une expérience coloniale très riche et il a déjà fait parler de lui et acquis une solide réputation dans ce domaine. Cette expérience coloniale, il a commencé par la vivre en Algérie, sortant de Saint-Cyr. Il y a passé un temps relativement bref, mais suffisant pour qu'il en revienne totalement fasciné par l'extraordinaire champ d'action que procure ce théâtre à des hommes de sa trempe. Et de ses premières expériences dans ce qu'il a appelé ce pays de lumière, il a conservé un irrésistible besoin de retrouver soleil, espace, autonomie, champ d'action à sa mesure et, si possible, absence d'autorité au-dessus de lui. Il devra attendre 1894, et donc l'âge de 40 ans, pour que cette expérience d'Algérie et la passion qu'elle a fait naître chez lui puissent se concrétiser par une affectation dans le lointain Outre-mer. Et c'est donc à cette époque qu'il part pour l'Indochine, servant sous les ordres d'une personnalité qui a déjà été brièvement évoquée ici, le maréchal Gallieni, avec qui d'emblée Lyautey s'est trouvé en parfaite communion de pensée. Et c'est à l'école de cette personnalité exceptionnelle qui s'est petit à petit forgé cette doctrine de pacification plutôt que de colonisation. C'est de cette période qu'il retiendra cette phrase: il faut savoir gouverner avec le mandarin et non pas contre le mandarin. Après ces 5 années d'Indochine, c'est à Madagascar que Lyautey poursuivra son expérience coloniale. Madagascar, où Gallieni l'a appelé dès qu'il en a été nommé gouverneur général en 1897. Et là, Lyautey trouvera un cadre qui lui permettra, avec des méthodes aussi originales qu'efficaces, d'exercer ses talents d'abord dans le nord-ouest de l'île, et puis il deviendra commandant supérieur du sud de Madagascar en 1900. Il y passera 2 ans, reviendra en France, jeune colonel. On lui confie le 14e régiment de hussards à Alençon. Bon, ça le passionne pas, ça lui donne quand même l'occasion de mettre en œuvre ce qu'il avait écrit, qui d'ailleurs avait fait un peu scandale à l'époque, ou en tout cas avait suscité de nombreux commentaires, qui avait d'ailleurs probablement également suscité son départ pour l'Indochine, de façon à éloigner quelqu'un qui devenait un peu encombrant. Et à la tête donc de son 14e régiment de hussards, il met en œuvre ses principes de commandement, ce management à visage humain dont on a parlé plus tard. Mais très vite, il finit par obtenir ce qu'il souhaite, c'est-à-dire un nouveau commandement outre-mer. Et en l'occurrence, il est nommé en septembre 1903 au commandement de l'infanterie de la division d'Oran et de la subdivision d'Aïn Sefra, dans une région des confins algéro-marocains où la situation de nos troupes est souvent périlleuse, très dégradée, et il y mettra petit à petit un ordre que apprécieront vivement certaines des unités qui étaient vraiment dans des positions difficiles. Et c'est du fait des impressionnants succès qu'il remportera dans ce sud algérien qu'il sera nommé 3 ans plus tard à la tête de la division d'Oran, puis un peu plus tard encore haut commissaire de France pour les confins algéro-marocains. Et donc en 1912, à l'issue de la signature du traité de Fès, il part pour le Maroc. Il a déjà une expérience coloniale très solide et il a d'ailleurs formalisé dans de très nombreuses lettres ce qu'il a appris, aussi bien en Indochine, au Tonkin notamment, qu'à Madagascar et qu'en Algérie, notamment dans ce sud oranais. Et il aura d'ailleurs l'occasion de prononcer une conférence que Gallieni lui a demandé de faire sur les méthodes de commandement et de pacification développées par Gallieni et un peu formalisées et rayonnées par Lyauté. Et ce document, qui est intitulé « Du rôle colonial de l'armée », un peu en référence au rôle social de l'officier, a une actualité tout à fait étonnante. Et je pense qu'on y retrouve le profil de l'officier colonial, tel que Lyauté le voit, mais certainement aussi le profil des officiers que nous envoyons en Afghanistan, hier en Côte d'Ivoire, aujourd'hui en République du Tchad. Nous avons vraiment des officiers qui trouvent dans les écrits de Lyauté l'exemple de ce qu'ils souhaitent voir travailler à ses côtés, des officiers qui, comme ça vient d'être dit, ne sont pas que des militaires, mais sont également des bâtisseurs, des médiateurs, des juristes, et des personnalités obsédées par la pacification et surtout le développement du pays, et des officiers qui parlent la langue dans toute la mesure du possible. C'est donc en 1912 que s'ouvre pour Lyauté la période qui véritablement lui permettra de s'épanouir et qui, de 1912 à 1925, donc au cours de 13 longues années avec quelques intermèdes, dont celui de ministre de la Défense, brièvement, c'est pas la meilleure période de sa vie, il passera donc 13 années pénétré de l'importance fondamentale du rôle symbolique et unificateur que doit avoir le sultan au Maroc. Il se montre respectueux de son prestige, ou plutôt d'ailleurs promoteur de son prestige, puisqu'à l'époque, le jeune sultan qui a pris la place de son frère ne dispose pas d'un grand prestige. Et Lyauté s'attachera en toute occasion à restaurer et à promouvoir le rôle de ce chef, et surtout, il essaiera de multiplier, et il y réussira très vite, après avoir obtenu un certain silence des armes, le développement d'infrastructures indispensables au développement économique et social du pays, tout en mettant en œuvre une stratégie de long terme. Il ne savait probablement pas en 1912 qu'il passerait 13 ans au Maroc, mais il savait qu'il y resterait suffisamment longtemps pour construire un projet, ce qui malheureusement n'est pas la caractéristique des séjours outre-mer de nos camarades officiers aujourd'hui. Or, je pense que la durée est quelque chose de tout à fait essentiel, de même d'ailleurs que la pratique de la langue. J'en ai déjà dit un mot tout à l'heure. Et en 1925, Lyauté sera amené à démissionner dans des conditions que vous connaissez, à la suite de la visite du général Pétain, la guerre du Rif, les moyens qu'il envisage et les modalités qu'il souhaiterait pour résoudre ce problème. Bref, il revient en France, dans des conditions d'ailleurs assez lamentables au plan de l'accueil qu'on lui réserve, et il consacrera désormais les dernières années de sa vie à de très nombreux déplacements que lui doit sa très grande notoriété, à la rédaction de paroles d'action. Je pense que les deux termes sont très importants et que le second est pour lui fondamental. Parole d'action, qui est une sorte de testament spirituel qu'il a écrit dans le calme de Torre Liotte où il s'est retiré. Il est également président d'honneur de l'ensemble du scoutisme français et puis il se consacre à son rôle de commissaire général de l'exposition coloniale internationale dont il a été dit un mot à propos du président Doumer tout à l'heure. Mais pendant cette période qui va durer une dizaine d'années, de la fin de sa vie en métropole, fin de sa vie puisqu'il meurt le 27 juillet 1934 dans son domaine de Torre, Liotte s'attachera aussi à participer autant que possible aux séances de l'Académie des sciences coloniales, académie qu'il présidera, ça a été rappelé ce matin, en 1932 et 1933, très peu de temps donc avant sa mort, survenu en 1934. Et c'est d'ailleurs encore de son vivant, fait évidemment exceptionnel, que votre Académie lui fera connaître la création d'un prix portant son nom, le prix du maréchal Liotte, destiné à récompenser chaque année, je cite, « d'une façon plus encore morale que matérielle, les bons ouvriers de l'essor et de la prospérité du Maroc dans les plans divers de l'activité locale ». Et le premier prix du maréchal Liotte a été attribué dès 1934, donc l'année de sa mort, et peu de temps après, à deux éminents experts, qui n'étaient ni des officiers généraux ni même des colonels, mais d'éminents experts en botanique et en sciences agronomiques et économiques. Ce qui est, je pense, très symbolique de la façon dont Liotte envisageait son action de pacification, à l'abri des armes dont le silence était obtenu par les soldats, mais sous l'impulsion de ceux qui véritablement construisent la paix. Votre culture qui vous rend familière la période que je viens de survoler vous a peut-être fait paraître un peu long ce rappel chronologique de date, de lieu, de fonction. Je pense que c'était quand même utile pour bien montrer que la personnalité de Liotte était pratiquement incontournable pour qu'il soit parmi les éminentes personnalités qui ont fondé votre Académie. Et j'en arrive donc à ma deuxième et dernière partie, qui voudrait souligner à quel point le maréchal Liotte a été fidèle à ces quatre verbes de votre belle devise « savoir, comprendre, respecter et aimer ». Et j'emprunterai un certain nombre de citations à deux personnalités que je voudrais évoquer en leur rendant hommage, parce que c'est un peu grâce à eux que le peu de science que j'ai sur Liotte mais dans tête, c'est d'abord Arnaud Tessier, dont vous avez forcément lu l'excellent livre sobrement intitulé « Liotte » qu'il a publié en 2004, qui a été réédité depuis, qui est tout à fait passionnant. Puis je veux évoquer aussi le colonel Geoffroy, qui est l'actuel président à la fois de la Fondation Liotte et de l'Association nationale Maréchal Liotte. Fondation et association qu'il a créée, ou en tout cas qu'il a ranimée en 1980, après la mort de Pierre Liotte, qui avait en 1934 accepté et pris l'héritage de son oncle, qu'il a développé. Mais en 1980, personne n'a voulu accepter l'héritage que constituait la propriété, tous les souvenirs, la bibliothèque, enfin un tas de documents absolument exceptionnels, d'armes et équipements. Et le colonel Geoffroy s'est retrouvé à la salle Drouot pour racheter en catastrophe ce qui était déjà en vente et pour essayer ensuite de récupérer les fonds nécessaires pour régler l'addition de l'acquisition de ses souvenirs à la salle Drouot et l'acquisition du château. Alors après ce petit intermède, j'aborde donc le premier de ces quatre verbes, savoir. Toute sa vie, Liotte l'a d'abord consacré à l'acquisition du savoir. Il a été, comme vous le savez, dans sa prime jeunesse, immobilisé dans un corset d'acier, à la suite de sa chute à l'âge de 18 mois, sur le casque d'un cuirassier qui providentiellement l'a sauvé d'une certaine façon, mais il s'est retrouvé jusqu'à l'âge de 12 ans dans une situation dont les seules distractions qui pouvaient s'offrir étaient la lecture. Il y a pris goût, il s'est lancé dans des lectures très éclectiques et il ne quittera jamais ce goût pour la lecture, que ce soit dans la jungle tonkinoise, sous l'écrasante chaleur du dessert algérien ou dans un emploi du temps au Maroc dont nous avons du mal à imaginer la densité. Et c'est pour savoir que Lyoté s'est imposé, dès son premier séjour en Afrique, d'apprendre l'arabe. Et je reviens sur ce thème de la langue qui me paraît tout à fait fondamental, en regrettant évidemment que peu de nos officiers engagés aujourd'hui, par exemple en Afghanistan, parlent le farsi ou le pachtoun. Et il est certain que parler assez bien la langue des parties en présence, au service desquelles nous nous trouvons pour essayer d'instaurer le silence des armes que j'évoquais tout à l'heure, c'est plus facile de le réaliser quand on peut s'exprimer et comprendre d'ailleurs, bien au-delà des mots, tout ce que la langue permet de connaître sur la culture et les mentalités des populations au service desquelles nous nous trouvons. Ce savoir, Lyoté l'exigeait aussi de ses subordonnés et de ses collaborateurs de toute discipline, qu'ils soient scientifiques, architectes, ingénieurs, médecins, etc. Et vous savez qu'il s'est attaché très tôt à ne pas simplement donner à ses collaborateurs ou à ses subordonnés le goût de la lecture et de la connaissance, mais qui s'est aussi attaché à développer ce goût chez ses soldats. Et c'est tout le sens de sa réflexion sur le rôle social de l'officier que j'ai évoqué il y a un instant. Et puis Lyoté, à propos de ce verbe savoir, est aussi un exemple tout à fait essentiel pour nous, parce qu'il a été exemplaire en matière de faire savoir. Je vous disais tout à l'heure qu'une promotion de l'école de guerre a pris le nom du maréchal Lyoté. Je pense que cette promotion aura beaucoup à apprendre de son parrain, en lisant Paroles d'action, les lettres du Tonkin, etc., etc., dans une période où la communication est aujourd'hui une des armes les plus importantes et les plus efficaces qui peut faire gagner ou perdre des batailles certainement, des guerres peut-être. Enfin, savoir pour Lyoté, c'est surtout savoir ce que l'on veut. Je cite, « L'essentiel est de savoir ce que l'on veut et où l'on va. Or, cela, je le sais, faire prédominer sur tous mes actes le devoir social. » Deuxième point, il ne s'agit pas simplement de savoir, pour briller, pour étaler sa culture, il faut savoir pour comprendre. C'est donc le deuxième verbe sur lequel je passe rapidement. L'essentiel de ce que Lyoté a compris et de ce qui doit nous permettre de comprendre à notre tour aujourd'hui l'œuvre qu'il a accomplie peut passer par quatre exemples ou quatre points. Le premier auquel Lyoté s'est attaché, c'est comprendre l'esprit de façon précise de la mission qui lui est confiée. Et comprendre l'esprit, ça veut dire éventuellement, surtout dans son esprit à lui, apprécier la marge de manœuvre qu'on lui laisse par rapport à une lettre de la mission qui ne l'intéresse pas beaucoup. Seul l'intéresse, effectivement, le but à atteindre, l'esprit, de façon à pouvoir monter la manœuvre à partir de moyens effectivement disponibles, en ayant obtenu les renseignements nécessaires, etc., pour atteindre ce que les militaires appellent l'état final recherché. Il écrit lui-même « Ce qu'il faut, c'est voir le but, toujours le but, et seulement le but, et constamment adapter les moyens pour l'atteindre dans le plus bref délai. » Comprendre pour lui, c'est donc anticiper sur les résultats de la manœuvre en cours au regard de la future situation d'ensemble. La pacification, écrit-il, est faite de prudence et d'adaptation. Elle doit progresser comme une tache d'huile, formule qui est restée célèbre, souple mélange de politique, d'amitié, de force, de raids militaires se muant en essor économique, les raids militaires n'ayant pas de sens en eux-mêmes. Et on peut se demander, en relisant Lyoté, si les missions récemment conduites en Irak ou en Libye ont bien respecté le souci de Lyoté de comprendre avant d'agir et d'imaginer avec plusieurs coups d'avance comment parvenir à cet état final souhaité que j'évoquais il y a un instant. Et si Lyoté avait aussi compris que l'action militaire n'a de sens qu'au service d'un projet politique, que disait tout à l'heure le professeur, et que cet objectif politique ne sera effectivement atteint que sous l'action vigilante de la force du soldat, mais cette force du soldat, elle n'a de sens que pour permettre aux actions civiles de multiples natures orientées vers la recherche du développement économique, social, culturel de la région concernée. C'est ce que l'OTAN appelle aujourd'hui très doctement la « comprehensive approach ». L'IOT savait depuis longtemps ce qu'on semble découvrir aujourd'hui, à savoir qu'aucune crise n'a de solution uniquement militaire. Sur ce verbe « comprendre », je termine en soulignant que l'IOT avait vraiment tout compris avec une vision prophétique quand, le 14 avril 1925, il prononce cette mise en garde solennelle. Il faut admettre comme une vérité historique que dans un temps plus ou moins lointain, l'Afrique du Nord, évoluée et civilisée, vivant de sa vie autonome, se détachera de la métropole. Il faut qu'à ce moment-là, et ce doit être le but ultime de notre politique, les regards des indigènes continuent à se tourner avec affection vers la France, que cette séparation se passe sans douleur. Quelle intuition prophétique dont il est grand dommage qu'elle n'ait pas été écoutée par l'administration et par certains grands colons, notamment en Algérie. Je pourrais multiplier les exemples, mais je n'en ai pas le temps. Et j'aborde donc le troisième verbe, respecter. Ce que Lyoté savait probablement le mieux du verbe savoir et comprenait certainement le mieux du verbe comprendre, c'est que pour comprendre, il faut d'abord respecter. Respecter, c'est respecter l'autre, c'est se respecter aussi soi-même. Et c'est d'abord par une approche respectueuse des réalités profondes du Maroc que l'IOT a pu conduire ce pays, alors très fragile et déchiré suffisamment pour accepter le traité de Fès sur le protectorat, l'amener vers la modernité dans l'unité. Le Maroc, écrit-il, est un État autonome dont la France assure la protection, mais qui reste sous la souveraineté du sultan, avec son statut propre. Une de mes premières missions est d'assurer l'intégrité de ce régime et le respect de ce statut. Mais au-delà du respect des traditions sociales et coloniales, des opinions locales, tribales, nationales, au-delà du respect des structures administratives locales du Marzen de l'époque, l'IOT, dans une vision profondément humaniste, visait le respect de l'homme. Il n'y a qu'une voie à suivre, écrit-il encore, celle du travail social, qu'une règle, agir dans un esprit de justice et de respect, le seul qui libère l'homme. Et enfin, respecter l'homme, c'est pour l'IOT, certes respecter les autres dans leurs identités profondes, mais aussi et d'abord se respecter soi-même. Et c'est ainsi qu'il écrit ce dont il faut bien être pénétré. Si l'on veut bien servir la France en pays d'islam, c'est qu'il ne suffit pas d'y respecter leur religion, mais aussi les autres, à commencer par celle dans laquelle on est né et a grandi notre pays, sans que ce respect exige d'ailleurs la moindre abdication de la liberté de pensée individuelle. Et c'est la même idée sur laquelle il insiste quand il écrit « Je revendique dans ma sympathie pour l'islam » de n'avoir jamais abdiqué mes propres convictions, de n'avoir rien abdiqué de nos origines, de notre intellectualité, de nos traditions de Français. Et je pense vraiment qu'il y a là une leçon que nous devrions méditer, alors que les flux démocratiques se sont inversés, que l'immigration amène dans nos pays d'Europe des foules nombreuses qui professent l'islam. Mais évidemment, tout ceci se pose d'avoir nous-mêmes des repères naturels, faciles, solides. Et l'IOT ne manquait pas déjà, dans les années 1920, de s'interroger sur la fragilité des repères de la société française. Il est clair que nous devons à notre tour nous livrer sans complaisance à cette introspection. Je termine par le verbe « aimer », l'inventaire de ces quatre verbes de votre devise, et ça peut paraître paradoxal de vouloir caractériser l'œuvre et la méthode de celui qui a toujours été extrêmement pudique extrêmement réservé, parfois même glacial, de l'évoquer par le verbe aimer. Et c'est pourtant lui qui écrit, je cite, « Il n'y a pas d'œuvre humaine qui, pour être vraiment grande, n'ait vraiment besoin d'une parcelle d'amour. » De même, s'agissant d'un brillant officier qui l'a approché, Lyautey dira « Il est bougrement intelligent, mais il ne fera rien de grand, car il est dépourvu d'amour. » Et c'est lui aussi qui proclame, s'agissant du Maroc, je cite, « La pensée avec laquelle je vis, qui me porte, qui est une directive essentielle, je veux nous faire aimer de ce peuple. » Et c'est bien d'amour de ces hommes qu'il est question quand il écrit « La plus grande preuve d'estime que l'on puisse donner aux gens que l'on a l'honneur de diriger, ce n'est pas de les flagorner, mais de leur parler gravement en leur montrant les choses comme elles sont. » Et c'est enfin ce qu'il exprime aussi dans cette phrase, je cite, « Pour comprendre quelqu'un, l'intelligence ne suffit pas, il faut le cœur. » Bref, à travers sa pratique quotidienne des quatre verbes de votre riche devise, Lyautey a au fond mis en place les bases de tout ce qui constitue ce management à visage humain que nos grandes écoles cherchent à enseigner aujourd'hui. Mais pour conclure, je dirais que pour comprendre l'esprit et la philosophie de Lyautey, il me semble qu'aux quatre verbes de votre devise, il faut en ajouter un cinquième qui donne sens et complémentarité aux quatre autres. Et vous le devinez, c'est le verbe « agir ». Lyautey se définissait lui-même comme un animal d'action. Et en l'absence de mémoire que ce merveilleux écrivain aurait pu nous livrer, il a réalisé ce que j'ai appelé tout à l'heure un testament spirituel, « parole d'action, d'action ». Et sa devise, vous la connaissez, « La joie de l'homme est dans l'action ». Mais l'action telle que la conçoit Lyautey n'est pas seulement une action qui peut se conduire n'importe quand et n'importe où. Pour agir au sens où Lyautey l'entendait, on a besoin d'un champ à la mesure de l'idéal humaniste qui anime celui qui veut agir. Et Lyautey estimait que la métropole était trop étroite à tous égards, et pas seulement géographiquement, mais aussi mentalement, pour que se libèrent les énergies créatrices des élites. Il écrit cette phrase, « Il m'apparaît de plus en plus, c'était en 1903, que dans la vie coloniale seule, s'est concentrée toute la vitalité de notre pays. C'est la seule fabrique d'énergie française qui subsiste. Toutes choses égales d'ailleurs, c'est, me semble-t-il, un peu la vocation de votre académie de promouvoir précisément à l'image de Lyautey un intérêt, voire une passion chez nos jeunes et chez nos jeunes les plus entreprenants et les plus brillants pour le grand large, pour l'outre-mer dans tous les sens du terme. Et l'outre-mer, je pense qu'aujourd'hui, ça s'étend aux dimensions géographiques du monde, bien sûr, mais aussi à des dimensions nouvelles que Lyautey, bien qu'assez prophétique dans plusieurs domaines, n'avait pas véritablement envisagé, la dimension virtuelle. J'ajoute celle de l'espace, et là, Lyautey a été meilleur, puisque c'était un fervent promoteur de la troisième dimension et de l'aéronautique. J'arrive au terme de cette intervention, forcément caricaturale, tant il y aurait à dire sur l'actualité des messages que nous lègue cette fascinante personnalité. Et c'est sur le mot « action » que je voudrais insister, vous n'en serez pas surpris. Je citerai le général de Gaulle à propos du thème général que nous appelons aujourd'hui, à mon sens d'ailleurs très maladroitement, le devoir de mémoire. De Gaulle écrit « Le souvenir n'est pas seulement un pieux hommage rendu aux morts, que nous faisons aujourd'hui vis-à-vis du maréchal Lyautey, mais le ferment toujours à l'œuvre dans l'action des vivants. » Ce ferment, votre académie a pour vocation de le diffuser aussi largement que possible. Puisse-t-elle le faire dans les 90 années à venir, aussi bien qu'elle l'a fait au cours des 90 années passées. Dans cet esprit, à son modeste niveau, la Fondation Lyautey que je représente aujourd'hui est évidemment prête à agir avec vous. Puisse en tout cas ce ferment si riche que nous lègue le maréchal Lyautey, longtemps nourrir l'action des vivants. Merci beaucoup.
C'était donc le portrait d'Hubert Lyautey, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer, également de l'Académie française, raconté par Bertrand Delaprelle, le général d'armée. C'était à l'occasion des 90 ans de l'Académie des sciences d'outre-mer, célébrée en 2012 au musée Guimet.